Bonjour Denise, que Dieu vous bénisse. J'étais dans votre coin vendredi. J'ai dû aller faire une course très très rapide à deux montagnes. Donc je suis en fait à environ 500 mètres, même pas à vol d'oiseau de l'église. Donc j'ai dû rapidement aller faire un aller-retour. Bonjour Didier. Pasteur Georges, que Dieu te bénisse, mon ami. Content que tu sois là. J'ai écouté les enseignements, écoutez, pas au complet, mais j'ai écouté en partie les enregistrements en arménien de votre assemblée. Et je trouve tellement votre langue belle. J'aime les consonances, les sonorités. J'y comprends rien, là, bien entendu, mais je trouve ça beau à écouter. C'est une belle langue. Que Dieu te bénisse, mon ami. Comme vous savez, le pasteur Georges m'est très précieux. Il fait une merveilleuse œuvre au sein de l'Église évangélique arménienne de Montréal. Donc, encore une ou deux minutes, et puis on prend notre enseignement pour aujourd'hui. Vous pouvez déjà ouvrir dans Lévitique au chapitre 25. D'accord, alors on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour cette occasion que nous avons encore une fois de plonger nos regards dans ta parole, cette parole, Seigneur, qui nous abreuve, qui nous nourrit, qui nous donne, Seigneur, ce qui nous est nécessaire pour vivre notre vie en accord avec ta pensée, pour vivre notre vie pleinement selon, Seigneur, le propos pour lequel tu nous as créés. Donc aujourd'hui, j'appelle ton onction sur nous tous, sur moi qui vais partager cette courte exhortation, mais aussi, Seigneur, sur tous ceux qui sont réunis pour écouter, pour recevoir, Seigneur, cette parole. Donc, on te demande, Seigneur, de faire en sorte qu'elle soit arrosée par l'onction de ton esprit pour que cette semence puisse non seulement s'enraciner en nous, croître, mais qu'elle puisse porter un fruit qui te sera agréable jusque dans l'éternité. Alors, merci d'être avec nous. Nous t'avons prié dans le tout précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais lire pour vous deux versets ce matin, même si durant cette semaine, on va étudier un long passage dans Lévitique 25, du verset 23 à 55. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre et développer certains points de la prédication de dimanche, comme on a fait au cours de ces 7 dernières semaines, où on étudiait la question du jubilé. Et aujourd'hui, et cette semaine, en fait, la thématique qu'on aborde, c'est le jubilé en lien avec le rachat des terrains. Dans le contexte biblique et dans le contexte du peuple d'Israël, lorsqu'ils allaient rentrer dans la terre promise, 40 ans avant qu'ils n'accèdent à la terre promise, en fait, Dieu va parler à Moïse en lui disant, voici comment les choses vont se passer. Et durant ces 7 dernières semaines, on a donc étudié 6 points, on en rajoute un septième cette semaine, qui est le rachat. Et Dieu disait, voici comment je veux que vous opériez en tant que peuple de Dieu, voici comment je veux que vous conceviez les choses, comment vous disposiez de vos cœurs devant moi, et comment je veux que vous travailliez les uns avec les autres. La question du rachat est intimement liée à la question des dettes, puisque on parle ici de terrains qui étaient cédés, vendus, loués à d'autres personnes pour défrayer les coûts d'une dette. Si à un moment donné, un juif, un Israélite, venait à avoir des difficultés financières, il pouvait soit louer, vendre son terrain à quelqu'un, et puis le cas échéant, il le récupérait à la 50e année, l'année du jubilé, ou sinon, pendant un certain temps, il y avait des gens qui pouvaient racheter le champ. Et qu'est-ce qu'était racheter le champ? Racheter le champ, en fait, c'était tout simplement payer la dette du débiteur. Ce juif qui s'était appauvri, qui avait vendu sa propriété. Donc, il y avait des gens dans sa proche famille, mais aussi lui-même qui pouvait récupérer par ses travaux de l'argent pour récupérer ce champ. Donc, c'était simplement la transaction pour ramener le champ à son propriétaire initial. Et cette semaine, donc, on va étudier là-dessus, mais on va se rendre compte que la loi du rachat est bien plus qu'une question de dette. C'était une question de secours fraternel. C'était en fait un devoir de secours fraternel. La difficulté qu'on va aborder ce matin, c'est que très souvent, lorsque on offre notre aide, parfois elle n'est pas faite avec le cœur qui se devrait, avec les intentions qui se devraient, ou avec la façon de faire qui se devrait. Donc ce matin, on va parler de certains aspects de notre caractère qu'il faut manifester lorsqu'on exerce effectivement le rachat ou lorsqu'on apporte le secours à quelqu'un. Donc je lis pour vous les versets 23 et 24. Les terres, dans Lévitique 25 bien entendu, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays, vous aurez la possession, vous établirez le droit pour les terres. Je répète, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Pourquoi je m'arrête sur ce verset-là? Parce que je pense que ces deux versets, en fait, sont un préambule important quant à l'attitude que nous devons témoigner et au type d'émotion qu'on doit démontrer lorsqu'on apporte le secours à quelqu'un. On va diviser ça et vous allez avoir 5 ou 6 termes en hébreu sur lesquels on va plutôt s'arrêter aujourd'hui. Donc j'ai divisé ce texte en parties de texte. La première phrase nous dit « Les terres ne se vendront point à perpétuité. Les terres ne se vendront point à perpétuité car le pays est à moi. » Les terres ne se vendront point à perpétuité car le pays est à moi. Perpétuité, c'est le terme tsimithut. Tsimithut, qui s'écrit en translittération T-S-E-M-I-Y-T-H-U-T-H. Assez compliqué à prononcer, mais je vous l'épelle de nouveau pour ceux qui prennent des notes. T-S-E-M-I-Y-T-H-U-T-H. Tsimithut. Ça veut dire, ce terme perpétuité, en fait, veut dire quelque chose qui arrive à terme, qui arrive comme une finalité, comme un achèvement, comme une complétion. Dans le sens de perpétuité, on penserait que c'est quelque chose qui se reproduit. Mais en fait, l'idée qui est donnée ici, c'est que les terres ne se vendront pas comme une finalité absolue. Ça veut donc dire que la personne qui perdait son terrain à cause d'une dette et qui était obligée de mettre en vente son terrain, cette vente-là n'était pas une finalité en soi. Pourquoi? Dieu va dire, ça ne sera pas une finalité parce que le pays est à moi. Parce que le pays est à Dieu, il décrète que la perte du territoire ne sera que temporaire. Parce que nous sommes dans le territoire de Dieu, il dit que celui qui va perdre quelque chose, ce ne sera pas éternel, ce ne sera pas perpétuel, ce ne sera pas pour toujours. Je vais juste enlever un petit truc. Voilà. Ok, désolé, il y avait un petit rigolo qui s'était branché. Donc, lorsque on parle de la perpétuité, ici, le Seigneur est en train de dire la situation n'est pas terminée. Et ça, c'est une chose qui est merveilleuse pour nous. Ça veut donc dire que Dieu, 40 ans avant que le peuple n'arrive à Canaan, puisque ce dialogue qu'il a avec Moïse se passe sur le mont Sinaï. Et Moïse n'est jamais allé dans la terre promise. Il l'a vu de loin, mais il n'y est jamais entré. Donc pendant 40 ans, Moïse va prendre ce que Dieu lui a donné, va répéter ça au peuple d'Israël pour le préparer, pour préparer le peuple à son accession. Et Dieu est déjà en train de dire, à un moment donné, il se pourrait que certains d'entre vous passent par des moments difficiles et que ce faisant, ils perdent un territoire, un terrain, une parcelle, une propriété en raison des dettes, mais qu'ils sachent déjà que j'ai prévu ce qu'on appelle la loi du rachat et que je vais faire appliquer cette loi pour que personne ne soit dans une situation qui soit sans fin et sans issue. Ça, c'est la grâce merveilleuse de notre Dieu. C'est la restauration planifiée, prévue, préparée de Dieu pour toi et pour moi. Ça veut donc dire que peu importe la situation difficile par laquelle nous pouvons passer, nous devons avoir cette assurance que cette situation va prendre une fin. Que peu importe la situation ardue qui peut être la nôtre actuellement, il y a une fin, il y a une cessation de cette situation qui a déjà été pensée, planifiée, préparée par Dieu. C'est ça un bon Dieu. C'est ça un Dieu rempli de grâce. 40 ans avant que le peuple ne fasse sa conquête, 40 ans avant qu'il ne devienne propriétaire du terrain, Dieu va dire, lorsque vous serez là, si vous perdez du terrain, ce terrain vous sera de toute manière rétrocédé. Je vais instaurer une façon de faire pour que ma grâce se manifeste chez vous. Et comment va se manifester la grâce? Va se manifester, et on va le voir tout au long de la semaine, par des proches parents, par des parents plus éloignés, par l'ensemble du peuple, par des situations qui vont s'améliorer dans la vie même de celui qui est appauvri, qui va réussir à récupérer par ses efforts le terrain, ou voire même par ce principe de la restauration qui se passe à la 50e année du calendrier juif qu'on appelle le jubilé. Donc les terres ne se vendront point à perpétuité parce que j'ai déjà prévu qu'il y aura une restauration. Alors mon frère, je tiens à te dire que la restauration s'en vient pour toi. Ma sœur, je tiens à te dire que la restauration est en route pour toi. Ne désespère pas, n'abandonne pas, ne laisse pas tomber. La restauration est en route. Pourquoi? Parce que Dieu dit, c'est mon territoire et sur ce territoire, j'applique ma loi. Et même si les hommes ne l'appliquaient pas, je fais venir moi-même la restauration dans ta vie. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que non seulement la loi de la restauration va s'accomplir, donc le pauvre peut s'attendre à une restauration qui a été planifiée, pensée par Dieu, mais de surcroît à cela, Dieu est en train de dire à celui qui achète le terrain du pauvre, à celui qui récupère le terrain de l'endetté, il est en train de lui dire, regarde, moi je ne veux pas que tu t'accapares du pays ou du terrain ad vitam aeternam. La propriété de laquelle tu prends possession parce qu'un de tes frères s'est appauvri, elle ne sera pas pour toi ad vitam et aeternam. Dieu est en train de dire, je ne permettrai pas l'égoïsme du riche. Je ne permettrai pas que celui qui s'enrichit s'enrichisse pour l'éternité au détriment de son frère ou de sa sœur. Et pour nous, ça doit être aussi un enseignement. Ça veut donc dire que Dieu n'est pas d'accord avec l'égocentrisme dans lequel on tombe régulièrement. Ici, Dieu est en train de dire, avant même que vous ne deveniez propriétaire d'un terrain, avant même que vous n'entriez pour la toute première fois dans la terre promise que j'ai pour vous. J'ai déjà une pensée que je veux inculquer en vous. J'ai déjà un mode de fonctionnement que je veux inculquer en vous. Et ce mode de fonctionnement fait en sorte que tu ne pourras pas tirer profit de ton prochain ad vitam aeternam. Tu ne pourras pas t'enrichir sur le dos de celui qui s'est appauvri à perpétuité. Il y a un moment donné où tu devras faire preuve d'une négation de l'égoïsme, d'un abandon de l'égocentrisme en rétrocédant la terre. Si ce frère n'est pas capable de la récupérer par ses propres moyens, si ceux qui sont autour d'eux ne sont pas capables de l'aider à récupérer ce terrain, moi j'établis déjà que toi qui viens de prendre possession de ce terrain ou toi qui vas prendre possession de ce terrain, tu devras éventuellement le rétrocéder. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta loi qui s'accomplit, mais c'est la loi de l'Éternel qui s'accomplit. Donc Dieu ici, dans ce premier dans cette première section de verset, Dieu est en train de dire deux choses importantes. La restauration, je la pense, je la planifie, je l'établis comme une loi. Le rachat était une loi que Dieu donnait au peuple d'Israël. Mais cette loi était non seulement bénéfique pour celui qui s'était appauvri, mais cette loi était aussi là pour réguler le comportement de celui qui était enrichi, de celui qui était bien nanti, de celui qui avait pris possession du territoire qui appartenait autrefois ou jadis à celui qui est devenu pauvre. Donc Dieu faisait deux choses. Il encourageait d'un côté celui qui passerait par un moment difficile et il disait à son enfant qui s'était enrichi, fais attention parce que je ne permettrai pas l'égoïsme et l'égocentrisme. Et si cette semaine on parle du rachat comme étant davantage une question de secours fraternel, voilà ce qu'on doit comprendre. Le secours fraternel non seulement est désiré de Dieu, est imposé et décrété par Dieu, mais le secours fraternel va demander de toi et de moi que nous oublions l'égoïsme dans lequel nous tombons trop souvent, que nous puissions oublier l'égocentrisme dans lequel nous sombrons trop souvent. C'est une notion qu'on a vue à travers les dernières semaines où on disait que Dieu devait être la première priorité. Après ça, c'était son Église ou notre prochain, c'était autrui. Donc notre première responsabilité, oui Dieu, mais notre deuxième responsabilité, notre prochain et non pas nous. Alors Dieu disait au peuple, je ne veux pas que vous manifestiez d'égoïsme ou d'égocentrisme. La deuxième section de verset va dire, les terres ne se vendront point à perpétuité, parce que ce pays est en moi, mais aussi parce que vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Dieu va dire, voici pourquoi les terres ne se vendront pas à perpétuité. Parce qu'en fait, vous êtes sur mon terrain, et sur mon terrain, votre statut est un statut d'étranger et un statut d'habitant. Le terme étranger, toujours en hébreu, le terme guerre, G-E-R, qui parle d'un nouvel arrivant qui n'a pas un droit acquis ou hérité. C'est un peu comme celui qui arrive dans un pays étranger, qui est encore dans le statut d'immigrant et qui n'est pas un citoyen nationalisé ou naturalisé ayant pris la citoyenneté du pays en place. Donc, ce faisant, oui, il a des droits parce qu'il est, quand même dans un état de droit et il y a quand même des lois pour le protéger, mais il y a des choses auxquelles il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de voter, notamment. Il y a des pays, si tu n'es pas naturalisé de l'endroit, il t'est interdit d'ouvrir une entreprise ou il t'est interdit de faire l'achat d'une propriété. L'achat d'une propriété dans certains pays est laissé uniquement à ceux qui ont la nationalité, le passeport du pays en soi. Donc, il y a une différence de statut entre celui qui est citoyen et celui qui est tout simplement un immigrant qui est tout simplement un passager, un touriste dans l'endroit. Et lorsqu'on parle ici de l'étranger, on parle effectivement de celui qui n'a pas encore acquis des droits dans l'endroit. Lorsqu'on parle d'habitant, en français, ce terme-là pourrait être trompeur parce qu'on pourrait penser qu'habitant, ce soit un national, qu'un habitant soit quelqu'un qui a des droits en tant que membre du peuple. Ici, habitant, c'est le terme toshab, toshab, T-O-W-S-H-A-B, je répète, toshab, T-O-W-S-H-A-B, qui veut dire celui qui séjourne passagèrement et qui se différencie du citoyen né. Donc ici, on parlait d'un touriste. On parlait donc premièrement de l'immigrant qui vient s'établir dans une contrée étrangère, puis de celui qui fait simplement séjourner passagèrement, temporairement, dans une terre, en sachant qu'il est différent du citoyen né dans l'État. Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que les lois qui régissent les relations au sein du peuple de Dieu vont être établies comme pour des gens qui sont de passage. Quand j'ai été visiter le Burkina, un pays que j'aime énormément et un peuple que j'aime énormément, il y avait des choses malgré tout qui me déplaisaient. Il y avait des choses où je me disais, eh, il me semble qu'on devrait faire les choses différemment. Mais je n'ai aucun droit sur les lois là-bas. Je n'ai aucun droit à revendiquer sur le territoire là-bas parce que je ne suis pas un citoyen burkinabé. Lorsque j'ai eu à visiter l'Espagne, il y a des choses qui me plaisaient énormément, il y a des choses qui me plaisaient un peu moins. Mais lorsque j'étais là-bas, je n'avais pas droit de parole ou droit de revendiquer quoi que ce soit parce que j'étais tout simplement un touriste qui passait quelques jours, quelques semaines dans l'endroit. Par contre, étant au Canada, je suis citoyen canadien, je peux revendiquer des droits, je peux faire entendre ma voix parce que j'ai des droits en tant que citoyen ici présent. J'ai le droit d'exercer mon droit de vote. J'ai le droit de dire, celui-là, j'ai pas envie qu'il passe aux prochaines élections, donc je vote contre lui. Ou je peux dire, celui-là, je l'aime, j'ai envie qu'il repasse aux prochaines, alors je lui accorde mon vote. Alors qu'un touriste ne peut pas faire ça. Dieu était en train de dire, lorsque vous serez dans mon territoire, par rapport aux lois que j'impose, alors par rapport même à la loi du rachat, par rapport à la loi de secours fraternel, je veux vous dire que celles-ci sont non négociables et non réformables. Vous n'avez rien à dire là-dessus parce que c'est mon territoire et sur mon territoire, j'y applique la loi que je veux. Donc la personne disait, eh oui, mais j'ai acquis ce territoire, j'ai acquis ce terrain. Et Dieu lui disait, non, ce n'est pas ton terrain, c'est mon terrain à moi. Et sur mon terrain à moi, je t'oblige que dans un maximum de 50 ans, tu rétrocèdes cette terre à celui à qui elle appartenait auparavant. Donc la loi du rachat ne pouvait pas être négociée, ne pouvait pas être réformable. Les soumissions, où Dieu imposait une soumission au principe divin qu'il édictait pour son peuple. Il disait à son peuple, voici comment je veux que vous fonctionnez entre vous et je ne veux pas que vous sortiez de ce cadre-là. Ce cadre va imposer un abandon de l'égoïsme, ce cadre va imposer de la bénignité, ce cadre va imposer de la générosité, ce cadre va imposer de l'abnégation. Ce cadre va imposer une grâce, une miséricorde, un soutien, un amour fraternel. Voici ce que j'impose et je ne veux pas que vous sortiez de ce cadre-là. Un peu ce que Jésus va dire lorsqu'il va dire à ses disciples bien des siècles plus tard, voici un commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres. Jésus va dire que effectivement le premier commandement dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout ce qu'on a, mais de surcroît à ça, il rajoute un deuxième commandement qui est tout aussi important que le premier, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut donc dire que Jésus était en train de dire, dans le royaume que j'établis, dans l'Église que nous démarrons actuellement, l'amour du prochain va faire preuve de loi. L'amour du prochain va être édicté comme une loi. Je ne peux pas, à ma guise, manifester ou ne pas manifester d'amour. Je ne peux pas, à ma guise, dire envers celui-ci, je témoigne de l'amour, mais envers l'autre, je n'en témoigne pas. L'amour est une loi du royaume de Dieu. L'amour est une loi qui régit l'Église. Et il faut donc que toi et moi, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos paroles, dans nos actions, nous appliquions la loi du rachat d'une part, et cette loi du rachat est intégrée dans la loi de l'amour fraternel. Le secours à notre frère, le soutien à notre frère, le secours à notre prochain font partie, tout cela fait partie de la loi du rachat, de la loi de l'amour que nous avons à témoigner les uns envers les autres. Donc, le Seigneur est en train de dire ces principes d'amour, ce principe de rachat, ce principe de secours qui doit exister dans vos relations fraternelles, ça a force de loi. Cela a force de loi. C'est pas une option. C'est pas si j'en ai envie. C'est pas si je le sens. C'est une loi que Dieu impose. Et assurément, nous sommes régulièrement tous et chacun en infraction. Je mets un aparté ici. Certains vont dire, ah ben alors est-ce que ça veut dire qu'on doit tout accepter? Ça ne veut pas dire qu'on doit tout accepter. Le péché se doit d'être réprimé. Le péché se doit d'être condamné. Mais en condamnant le péché, on ne tue pas le pécheur. On condamne le péché et on prend le pécheur et on l'amène à une réforme dans l'amour et dans la grâce et dans la bonté et dans la miséricorde de Dieu. Jésus détestait le péché, mais il aimait passionnément le pécheur. Voilà pourquoi tu peux être sauvé aujourd'hui. Il détestait ce que tu faisais. Il détestait les mauvaises pensées qui t'habitaient. Il détestait les mauvaises propensions qu'il y avait en toi. Mais il t'aimait passionnément en tant que créature. Il t'aimait passionnément en tant qu'individu. Et voilà pourquoi il a été capable de passer outre ton péché pour subir, lui, la condamnation de ton péché, pour qu'effectivement ton péché soit condamné et que lui puisse t'accorder sa grâce ayant payé le prix pour ton péché. Troisième point ce matin, et ça, on tombe maintenant dans le verset 24. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, dans tout le pays dont vous aurez la possession. Là, on rentre dans possession, puis les gens disent, mais voilà, on devient propriétaire. Le terme possession ne veut pas dire propriétaire dans le sens un droit acquis. Le terme possession vient de l'hébreu achuza, achuza, A-C-H-U-Z-Z-A-H, H-C-H-U-Z-Z-A-H, qui parle d'un héritier ou qui parle de celui qu'on positionne afin de posséder. Celui que quelqu'un plus fort que toi positionne afin que cette personne puisse hériter ou prendre possession. Ce que la Bible était en train de nous dire ou ce que le Seigneur était en train de dire à son peuple, c'était regardez, même dans le moment où vous pourrez prendre possession des terres, des lopins de terre, des parcelles qui appartiennent à vos frères, sachez que même cette possibilité-là de le faire, ça vient de moi. Foncièrement, tout ce que tu as est en raison de Dieu. Foncièrement, toutes les capacités que tu as ne viennent pas de toi, mais viennent de Dieu. Prenons celui qui chante bien. Il va dire, ouais, mais moi je chante bien, je pratique ma voix, je développe mon talent, donc c'est mon talent. Faux. Si Dieu claque des doigts demain matin, tu ne parles plus. Celui qui dit, ouais, mais j'ai travaillé fort pour me rendre où tu es. Effectivement, tu as travaillé fort. Mais si Dieu, sur le processus, avait claqué des doigts, le lendemain matin, tu ne te réveillais pas. Le lendemain matin, tu ne pouvais même pas bouger le petit doigt. Tout ce que tu es capable de faire, tout ce vers quoi tu peux te destiner, tout ce à quoi tu peux prétendre, n'est possible qu'en raison de la grâce de Dieu dans ta vie. Si demain matin, Dieu claque des doigts, tu es paralysé dans ton lit. Si demain matin, Dieu claque des doigts, tu n'es plus capable de faire quoi que ce soit. Si demain matin, tu claques des doigts, même ton don le plus puissant que tu crois avoir, ce don-là devient néant, nul, caduque, à l'instant même où Dieu claque des doigts. Alors tout ce que tu as, tout ce que tu fais, tout ce que tu peux faire, n'est issu que de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend un principe d'humilité et un principe de modestie. Dieu était en train de dire, lorsque vous serez capable de racheter la terre de votre frère, lorsque tu seras capable de prendre possession de la terre de ton frère parce que tu es plus nanti que lui, sache que même ça, c'est à cause de moi, ce n'est pas à cause de toi. Je fais ça pour que tu sois capable de bénir ton frère qui s'en va dans une situation archi pénible. Alors, dans nos relations entre nos frères et nos sœurs, dans nos relations avec nos frères et nos sœurs, la modestie et l'humilité est de mise. Même lorsque Dieu te bénit, même lorsque Dieu t'utilise, même lorsque on a l'impression à t'écouter que c'est Dieu lui-même qui parle à travers toi, même lorsque tu manifestes tous les dons les plus glorieux que l'homme n'a jamais vus sur la surface de la terre, même si ça arrivait dans ta vie, sois humble, sois modeste. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Alors Dieu a beau placer ses dons en toi, mais si c'est l'orgueil qui se manifeste, si c'est l'orgueil qui sort par ta bouche, si c'est l'orgueil qui sort par tes gestes, Dieu est capable de claquer des doigts et du jour au lendemain, tu n'es plus rien. C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar s'est élevé, il s'est cru aussi élevé que Dieu. Du jour au lendemain, il est devenu fou, je crois, pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il bavait. On l'a amené à l'extérieur de la ville parce qu'il avait perdu tout potentiel, toute autorité, tout pouvoir, toute capacité. Lorsque les hommes ont voulu s'élever et bâtir une tour pour être aussi élevé que Dieu, Dieu a claqué des doigts et en un seul instant, la confusion s'est emparée du peuple et plus aucun d'entre eux n'était capable de fonctionner à leur projet de la tour de Babel. Donc soyons prudents dans nos relations avec nos frères et nos sœurs. Apprenons, acceptons, décidons de faire preuve d'humilité et de faire preuve de modestie. Dernier point. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat des terres. Vous établirez le droit de rachat des terres. Deux choses. Établir, le terme Nathan, pour ceux qui s'appellent Nathan ou ceux qui ont nommé leur fils Nathan. Nathan veut dire donner, veut dire qui a été mis en place, qui est installé, qui est publicisé ou publié. Dieu est en train de dire, vous établirez le droit de rachat. Ça veut donc dire que c'était le devoir du peuple d'établir ce droit de rachat. Dieu disait, voici ce que j'impose, mais l'établissement dans la pratique de tous les jours, c'était le peuple qui le faisait. Dieu peut te dire, je veux que tu aimes ton prochain, mais Dieu n'aimera pas ton prochain à ta place. Dieu aime ton prochain pour lui-même. Mais Dieu te demande à toi d'instaurer dans ta vie l'amour par rapport à ton prochain. Dieu peut te dire, tu tournes à droite, mais Dieu ne va pas te tourner à droite et te pousser à droite. Il va te dire, je veux que tu ailles à droite. Mais celui qui tourne et qui s'oriente dans la volonté de Dieu, c'est toi, c'est moi. Donc l'établissement du droit de rachat était la décision d'obéir, décision d'obéissance de la part du peuple de Dieu. Dans la question des relations interpersonnelles, dans la question du secours fraternel. Comprenons une chose, la fraternité ou la bonne fraternité n'est pas un don spirituel, mais est un travail délibéré. La bonne entente avec nos frères et nos sœurs n'est pas un don spirituel, mais un travail qui incombe à toi et à moi, à nous deux. Nous sommes tous deux responsables de la bonne entente. Nous sommes tous deux responsables du secours envers notre prochain. Nous sommes tous et chacun responsables du fait que le secours fraternel s'opère parmi nous. C'est ma responsabilité, c'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité à nous tous. La fraternité, ce n'est pas un don qui va tomber sur nous, c'est un travail auquel on s'engage, une voie dans laquelle on s'engage, c'est une chose qu'on décide. La bonne entente va décider que je pardonne. La bonne entente va décider que je fais preuve d'abnégation. La bonne entente va être une décision qui va venir après avoir décidé d'exercer bonté, grâce, miséricorde, pardon envers mon frère et ma sœur. La fraternité n'est pas un don spirituel. La fraternité est une décision, est un travail délibéré. Mais de surcroît à cela, quand on parle de établir, on parle donc de quelque chose qui va être publicisé. Donc le principe de rédemption, le principe de rachat, le principe de restauration devait être publié. Pourquoi? Pour que celui qui a besoin de cette rédemption puisse y avoir recours. Parfois, on a des droits et on ne les utilise pas tout simplement parce qu'on ne sait pas qu'on a ces droits. C'est la période des impôts actuellement ou depuis quelques semaines, c'est la période des impôts. Et il y a des gens qui vont voir des conseillers spécifiques pour faire leurs impôts parce que ces hommes et ces femmes sont formés pour trouver, pour toi, pour moi, pour le commun des mortels, pour trouver des occasions de profiter de lois favorables à notre égard. Et tu te dis, mais comment ça se fait que pendant 20 ans, je n'ai pas pu profiter de cela? Ben pendant 20 ans, parce que tu ne savais pas que tu avais tel ou tel droit. Donc voilà pourquoi Dieu va dire au peuple, je veux que lorsque vous rentrez dans le pays de Canaan, je vous l'enseigne tout de suite, mais ça sera appliqué lorsque vous rentrez dans la terre promise, je veux que le principe de rachat soit établi, soit installé et soit publicisé, soit publié pour que celui qui pourrait en avoir besoin puisse crier « J'ai besoin !» Je puisse se tourner vers vous en disant « J'ai droit de recours dans cette matière pour avoir du secours. » Donc, il faut que les gens sachent que nous sommes là pour aider. Il faut que les gens sachent qu'ils ont droit de venir, qu'il y a cette possibilité de venir vers nous pour avoir le secours qui est nécessaire. Mais deuxièmement, c'était aussi pour que personne qui était en situation de force ne puisse ignorer son devoir de secours. Alors, c'était non seulement pour que celui qui est dans le pétrin puisse crier pour avoir du secours, mais de surcroît à cela, c'était pour que celui qui était dans une situation plus favorable ne puisse pas dire « Ah, ben, je ne savais pas que je devais aider. Ah, je ne savais pas que je devais secourir. » « Ah, je ne savais pas que je devais faire preuve de bénignité. Ah, je ne savais pas que je devais faire preuve de générosité. Ah, je ne savais pas que je devais faire preuve de grâce. » Dieu voulait que tu le saches pertinemment avant même que tu ne rentres dans la terre promise. Et pour nous, c'est la même chose. Dieu dit, « Vous êtes maintenant dans mon royaume. » Et ce royaume, ça marche, est fondé et fonctionne avec le principe de l'amour de Dieu. Et cet amour doit être manifesté à travers nous aussi. Donc, nous ne pouvons pas, sous cause d'ignorance, ne pas manifester amour. Et voilà pourquoi Jésus a tellement simplifié les choses. La loi disait, voici comment vous allez faire, voici comment vous allez faire, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, voici ce qui est droit, voici ce qui n'est pas droit. Jésus va dire, on va régler la situation une fois pour toutes. Aimez-vous les uns les autres. Et lorsque quelqu'un applique l'amour de Dieu, en fait, il manifeste toute la loi de Dieu, si effectivement on manifestait adéquatement, si on manifestait de façon étendue, de façon pleine, l'amour de Dieu, et à ce moment-là, la loi de Dieu s'accomplirait à travers toi et à travers moi. Est-ce que j'ai aimé assez? Est-ce que j'aime assez? Est-ce que je manifeste assez mon amour? Est-ce que j'ai manifesté adéquatement mon amour? Est-ce que mes paroles sont guidées par mon amour? Est-ce que mes actions sont guidées par l'amour? Est-ce que mes pensées sont guidées par l'amour? Est-ce que mon implication est guidée par l'amour? Et je vous rappellerai, je ne me rappelle plus si c'est Beko. Oui, c'est Beko qui chantait cela dans une de ses chansons, Gilbert Beko. Ça vous donne un peu mon âge, mais en même temps, j'aime la vieille chanson française. Donc, ça ne veut rien dire. Je suis encore très, très jeune. Beko disait dans une chanson, « Quand on aime, on ne compte pas. » Il parlait de quelqu'un qui dépensait beaucoup d'argent pour une dame qu'il aimait. Et il dit, « Quand on aime, on ne compte pas. » Jésus t'a tellement aimé qu'il n'a pas compté. Dieu t'a tellement aimé qu'il n'a pas hésité à donner son Fils en offrande pour ton salut. Si tu aimes ton prochain, tu ne compteras pas. Si tu aimes ton frère, tu ne compteras pas. Si tu aimes ta sœur, tu ne compteras pas. On a trop tendance à dire, oui, mais si je l'aide, je suis en train de me priver. Jésus s'est privé pour toi. Jésus nous invite à exercer ce même amour, cette même grâce, ce même rachat. À partir d'aujourd'hui, toi qui viens de m'entendre, tu ne pourras jamais, jamais, jamais dire que tu ne savais pas. Dieu veut que tu appliques amour envers ton frère, envers ta sœur. Il veut que tes paroles, que tes actions, que ta façon d'être, que ta démarche soient remplies d'amour. Et à partir de cet instant même, même si je crois foncièrement que tu le savais déjà, mais je te dis à partir de cet instant, tu ne peux plus dire que tu ne savais pas parce que tu viens de l'entendre. Et on s'arrête là ce matin. Voilà. J'ai dépassé un peu le temps. Je m'excuse, je me suis emporté, je me suis laissé aller par la parole de Dieu. Mais je m'emballe à partager avec vous ces vérités parce que je sais ce que Dieu est en train d'opérer parmi nous et comment il cherche à transformer son peuple. On rentre dans une nouvelle période, dans une nouvelle saison, et on doit y rentrer avec toutes les caractéristiques que Dieu veut pour nous en tant que peuple, en tant qu'église locale, mais en tant que royaume de Dieu aussi. Alors prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour ces exhortations. Tu viens nous secouer dans notre quiétude. Tu viens nous secouer dans nos habitudes qui ne sont pas toujours bonnes. Tu viens nous secouer dans notre nonchalance. Tu viens nous secouer, Seigneur, dans les pratiques qu'on a eues jusqu'à présent. Tu nous demandes, Seigneur, de remettre en question le pourquoi, le comment on a fait les choses pour s'assurer que tout ce qu'on fait, que tout ce qu'on dit, que tout ce qu'on est soit empreint de grâce, d'amour, comme toi, Seigneur, tu as eu à l'être envers nous et comme tu l'es encore envers nous. Alors, si nous sommes des imitateurs de Christ, c'est donc, Seigneur, avec cet amour que nous devons aussi bâtir de relations avec nos frères et nos sœurs et avec notre prochain. Tu aimais tellement ton prochain que tu as donné ta vie pour moi. Moi qui ne le méritais pas et qui ne le mérite toujours pas, mais tu m'as fait la grâce. Alors, Seigneur, si je veux t'imiter, je dois aussi, Seigneur, faire grâce, même à ceux que je crois qu'ils ne méritent pas ou qui ne devraient pas le mériter. Je n'ai pas à être un juge, je n'ai pas à être un juge de mon frère, de ma sœur, de mon prochain. J'ai à l'aimer. Et l'aimer, Seigneur, c'est, il ne calcule pas, il donne et il donne. Alors merci, Seigneur, de changer mon cœur. Merci de changer mon attitude. Merci de changer mes paradigmes de pensée. Merci de m'amener, Seigneur, dans les lois du royaume. Merci de me faire pénétrer dans la pensée même de Dieu, afin que mes pensées laissent le pas à tes pensées et que ce soit toi, Seigneur, qui vive à travers moi, toi qui parles à travers moi, toi qui aimes à travers moi. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On vous rappelle ce soir l'étude biblique avec le pasteur André à 19h sur l'Église primitive et le livre des Actes. Donc on vous invite à être là. J'étais content d'être et béni d'être avec vous ce matin. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et puis passez du bon temps dans la présence de Dieu. Au revoir tout le monde.